franceinter.fr.
Si vous imaginiez notre cosmos comme un grand tableau coloré, vous pourriez y voir par exemple des étoiles massives de couleur bleue, de vieilles galaxies aux teintes orangées et d'autres en forme de spirale également de couleur bleue. Les planètes, les étoiles, les galaxies qui composent notre cosmos sont au cœur de notre tête au carré cet après-midi pour comprendre ensemble comment est organisé notre univers et ce qui fait la singularité de notre ciel. Nous serons accompagnés dans cette exploration par deux astrophysiciens qui répondront à toutes vos questions sur France Inter. Également sur le mot-clé, l'attaque. Les archéologues du monde entier sont sous le choc après l'annonce de la destruction dimanche du temple de Baal Shamine en Syrie. Et c'est aujourd'hui à la une de la science. Axel Villard, bonjour.
Oui, bonjour Mathieu. Comment éviter que le patrimoine de l'humanité soit instrumentalisé? Existe-t-il de réelles solutions pour mettre fin au pillage? On pose la question et les vôtres sur Twitter à nos invités dans un instant pour la une.
Voilà donc pour le sommaire de cette nouvelle Tête au Carré réalisée par Stéphanie Texier et préparée par François Mercier et Margot Dullard.
La Tête au Carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Nous allons donc plonger notre regard dans le cosmos cet après-midi dans le dossier avec mes invités, les astrophysiciens François Scombe et Jean-François Bécard. Bonjour à tous.
Bonjour.
Les deux, bienvenue.
Bonjour à tous.
Jean-François Bécard, vous publiez « Le Sahara vient des étoiles bleues » chez Fayard. Est-ce que vous aviez consommé des produits illicites avant d'écrire un tel titre ou pas?
Peut-être pas assez. Déjà rien que s'émerveiller de tout ça nous transporte. Hein. Alors peut-être... Peut-être souhaitez-vous savoir pourquoi.
Ben bien sûr, les étoiles bleues, alors, qu'est-ce que c'est exactement?
Donc, le titre provient du fait, tout simplement, que les éléments naturels sont fabriqués dans le cœur des étoiles. Et en particulier le silicium, qui compose la silice du sable, le 14e élément sur la table de Mendeleïev. Peut-être que les auditeurs se souviennent de leur cours de seconde.
Oui, peut-être.
S'origine d'une classe effectivement un peu spéciale d'étoiles, les plus massives, les plus... et donc de couleur de surface bleue, comme la couleur des chalumeaux à haute température.
Ouais. Donc c'est tout à fait sérieux.
Absolument.
Le Sahara vient bien donc des étoiles bleues.
Le sable, une poignée de sable l'été provient de millions de ces étoiles qui ont fabriqué cet élément, l'ont diffusé. Et un jour, un système solaire s'est formé, le nôtre, ils étaient déjà là.
François Scombe, qu'est-ce qui différencie alors le cosmos de l'univers? Parce que là, pour le coup, en lisant le livre, c'est vrai qu'on fait bien la distinction, on la comprend bien en tous
les
cas.
Oui.
Et souvent, on mélange les deux.
Oui. En fait, je pense que le cosmos, on peut le définir comme l'univers observable par tout observateur, donc nous, par exemple.
Oui.
Simplement parce que
avec
les
galaxies, jumelles, quand même. Hein.
Voilà, avec des grands télescopes. Mm-hmm. Simplement parce que les galaxies qui sont dans le cosmos ont eu le temps, depuis le début de l'univers, depuis le Big Bang, de nous faire parvenir de la lumière. Parce que tout de même, il n'y a que 13,8 milliards d'années qui nous séparent du Big Bang. Et la lumière, elle est un peu poussive, elle ne va qu'à 300 000 km par seconde. Donc les galaxies qui sont au-delà du cosmos, on ne les verra pas. On ne les verra probablement jamais.
Et ça, c'est ce qui forme
le reste de l'univers.
Hein. Donc l'univers est composé de plusieurs cosmos.
Voilà, chaque observateur a son propre cosmos, c'est-à-dire son propre horizon, en fait, autour de lui.
On se retrouve donc dans un instant pour ce voyage cosmique avec déjà des questions pour vous qui arrivent sur franceinter.fr. Archéologie à la une de la science. Aujourd'hui, faut-il, depuis ce week-end, parler de Palmyre au passé?
C'est par la vallée des tombeaux qu'on pénètre dans la ville morte de Palmyre. Chaque tour funéraire, fermée par un ventail de pierres, renferme plusieurs étages superposés de niches à mort. La grande colonnade était, au IIIe siècle de notre ère, l'artère principale d'une grande cité prospère. Sur les chapiteaux corinthiens, les divinités d'Athènes se métissaient avec les dieux de Mésopotamie, car l'Euphrate est proche. Le paradis terrestre n'est qu'à quelques centaines de kilomètres d'ici.
Voilà, extrait d'un documentaire L'Orient qui vient de 1937. Comment réagir face au saccage répété, au pillage perpétré par Daesh ces derniers mois? Ce week-end, c'était le temple de Baal Shamine, donc à Palmyre, qui était détruit quelques jours seulement après l'assassinat de l'archéologue Khaled al-Assad, le directeur emblématique du plus beau site gréco-romain d'Orient. On en parle aujourd'hui avec deux archéologues par téléphone. Jean-Paul Demoule, bonjour à vous. Vous êtes professeur à Paris 1 et fondateur de l'INRAP. Et Pascal Buterlin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de l'Orient, également professeur à Paris 1. Pascal Buterlin, qu'est-ce que vous avez ressenti après les événements de ce week-end à Palmyre, un site que vous connaissez très bien?
Ma foi, j'étais complètement indigné, d'abord par l'exécution évidemment de notre collègue, et qui n'a été que le prélude, donc effectivement maintenant de cette destruction.
Vous êtes allé souvent sur place pour votre travail d'archéologue?
Oui, moi-même, j'ai travaillé en Syrie pendant plus de 20 ans. On passait à Palmyre. Moi, je travaillais sur l'Euphrate, hein, sur le site de Mari, qui est lui aussi dévasté actuellement par les pillards.
Mm-hmm. Est-ce qu'on a eu une idée précise de l'ampleur des destructions de ce week-end à Palmyre?
Bien, pour l'instant, je crois que des photos ont été mises en ligne ce jour de la destruction. On voit l'explosion. On a beaucoup de mal à évaluer les dégâts.
Jean-Paul Demoule, concrètement, est-ce que quelque chose est possible aujourd'hui pour tenter de sauver ces sanctuaires de l'humanité là qui tombent les uns derrière les autres depuis quelques mois?
Je crois que pour l'instant, rien n'est possible, puisque le but de ce genre d'opération qui est amplement médiatisé donc par les terroristes, c'est justement de provoquer des réactions et d'entraîner un certain nombre de pays dans une espèce de guerre qu'ils voudraient totale. Donc c'est effectivement effarant, insupportable, mais je crois que c'est aussi, tout comme la mise en scène des exécutions, c'est une manière de provoquer l'indignation.
Donc là, on est évidemment bien au-delà de l'archéologie, c'est de la géopolitique avec oui. Ces sites qui sont utilisés, hein, Jean-Paul Demoule, comme des armes de guerre.
Oui, parce que par ailleurs, enfin, je pense qu'il y a deux aspects. Il y a effectivement suscité l'indignation, et par ailleurs, dans les guerres, souvent la destruction des monuments du patrimoine, ça sert aussi à essayer de détruire la mémoire d'un pays. C'est ce qu'on a pu observer souvent. C'est une constante au Proche-Orient. On l'a vu aussi bien pendant les guerres en Yougoslavie ou encore dans d'autres cas. Cela dit, il y a encore un autre aspect, parce que ça c'est l'aspect spectaculaire et qui lui est médiatisé, c'est que ces destructions, elles s'accompagnent d'un pillage du patrimoine, comme le disait Pascal Buterlin tout à l'heure, et qui lui est destiné au trafic international et à financer Daesh. Et ça, on en parle un tout petit peu moins, et là, c'est les acheteurs, ils sont occidentaux, ils sont pas sur place.
Justement, Pascal Buterlin, contre ces pillages, est-ce qu'une action est possible plus facilement que l'arrêt des destructions?
Oh, je crois que sur place, tout est devenu extrêmement difficile. Hein. Dans toutes les zones de conflit, de toute façon, les archéologues peuvent difficilement intervenir. Toute une série de nos collègues syriens ont payé de leur vie des tentatives pour essayer d'empêcher les pillages, que ce s'agisse de gardiens ou d'archéologues. C'est extrêmement difficile. Après, une fois que les antiquités effectivement ont quitté les zones de guerre ou les zones de conflit, ben là il y a toute une mobilisation internationale à mettre en place pour prévenir les trafics, les transferts d'antiquités. L'UNESCO, Interpol sont mobilisés avec les principaux acteurs institutionnels pour cibler ces trafics. Hein. L'ECOM a en particulier publié une liste rouge sur la Syrie pour informer les douanes du type d'objets qui peuvent sortir du conflit syrien.
Alors Pascal Buterlin, essayez de vous placer dans un endroit où on vous entend bien, parce qu'on a des petits problèmes de liaison visiblement avec votre téléphone. Oui. Jean-Paul Demoule, qui concrètement peut acheter aujourd'hui les fruits de ces pillages?
Ben, c'est toutes sortes de collectionneurs fortunés dans les pays riches. Ça comprend évidemment les pays du Golfe, mais aussi bien les États-Unis, le Japon, l'Europe. Bâle notamment est une plaque tournante. Vous avez tous les ports francs qui constituent des sortes de micro paradis fiscaux dans lesquels sont stockés aussi bien des œuvres d'art que contemporaines que ce genre de choses. Donc ça fait très longtemps effectivement que l'UNESCO essaie de faire quelque chose, mais c'est un trafic à grande échelle où les pays occidentaux sont partie prenante et devraient être beaucoup plus actifs qu'ils ne sont actuellement.
Pascal Buterlin, certains sites sont retrouvés, on parle de la guerre en Irak en 2011-2013, que retrouve-t-on sur place après?
Bah après, en fait, on retrouve essentiellement un panorama ou un paysage complètement apocalyptique, hein, généralement des centaines de fosses, des sites complètement dévastés qui sont par la suite très difficiles à reprendre et à exploiter d'une façon ou d'une autre. C'est un des gros problèmes qu'on a actuellement, c'est de faire le diagnostic justement de l'ampleur des dégâts qui surviennent dans ces conflits.
Oui, puisque là maintenant, évidemment, les sites ne sont plus du tout accessibles, donc vous avez des informations très parcellaires sur l'ampleur des destructions justement à Palmyre, entre autres.
Bah dans le cas de Palmyre, il y a une chape de plomb qui est tombée sur le site. Une des raisons probables pour lesquelles les islamistes s'en sont pris aux archéologues, c'est précisément pour éviter que des informations ne circulent. C'est un des aspects, et il est visiblement pour arriver à bloquer toute information. Donc à partir de là, nous on est un peu démunis. S'ils prennent des risques considérables, il est pas question évidemment que des collègues prennent des risques insensés pour documenter et faire le monitoring des dégâts qui sont subis par ces sites. Notre solution, c'est le suivi par photosatellite.
On vous entend très mal. Jean-Paul de Moule, est-ce qu'une reconstruction, si la zone est libérée, c'est une solution après?
C'est une solution faute de mieux, hein, puisque ce site, il était déjà en ruine quand il a commencé à être exploité d'un point de vue archéologique. Donc, on a de nombreux exemples de reconstruction, de réparation, de restauration de sites. Donc, à moins de tout transformer en sable, on peut considérer que ça pourrait un jour ou l'autre, et ça sera sans doute refait, mais évidemment dans des conditions difficiles. Et ça, c'est les monuments, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on peut reconstruire, mais comme le disait Pascal Bitterlin, les atteintes au site, c'est les plus graves, c'est effectivement quand ils sont défoncés au bulldozer pour retrouver des objets à revendre. Et ça c'est bien pire encore.
Vous craignez, Jean-Paul de Moule, d'autres dynamitages de joyaux archéologiques dans les semaines qui viennent?
Oh bah certainement oui, puisque ça fait partie de leur stratégie, donc y a pas, et c'est des choses qu'ils diffusent. Il y a eu des périodes dans l'histoire où on détruisait, où on assassinait, mais sans le dire. Là au contraire, c'est un système qui marche en grande partie par les médias. Donc tout ce qui pourra être médiatisé sera exploité.
Merci en tous les cas à tous les deux pour vos explications, Jean-Paul de Moule et Pascal Bitterlin. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, la cigarette électronique encore controversée en France est à présent recommandée de l'autre côté de la Manche, dans le sevrage tabagique, selon un rapport rendu hier par l'organisme dépendant des autorités sanitaires britanniques. La e-cigarette serait 95% moins nocive que le tabac. Elle ne contient pas la plupart des composants toxiques d'une cigarette classique, comme le goudron, par exemple. Les fourmis savent se soigner toutes seules. Des scientifiques d'Helsinki ont montré qu'en ingérant volontairement de faibles quantités de peroxyde d'hydrogène, des fourmis en laboratoire pouvaient se guérir d'infections dues à des champignons parasites. Le peroxyde d'hydrogène mortel pour les fourmis en grande quantité est présent dans la nature, ce qui laisse penser que même à l'état sauvage, les fourmis pratiquent l'automédication. Et puis il a de longues moustaches, un poil soyeux, il vient de battre un record, il s'appelle Corduroy, c'est un vieux chat, un chat de 26 ans et 13 jours. C'est le Guinness Book qui vient de décerner à cette boule de poil le prix du chat vivant le plus vieux au monde. Mais Corduroy doit encore battre Cream Puff, décédé en 2005 et qui détient le titre de chat le plus vieux de l'histoire, puisqu'il est mort à l'âge de 38 ans et 3 jours. Pour voir une photo de Corduroy, rendez-vous sur le site Facebook de La Tête au Carré. Allez, les yeux droits dans le cosmos, dans un instant.
Je les aime tous, comme moi-même. Les biens sont bien, mais les mieux sont mieux. J'ai vu la pauvreté à Saint-Tropez. J'ai vu les pauvres stars frustrés. La vie est belle, chic et pas cher. La vie est belle, chic et pas cher. J'ai connu un rapper avec une chaîne en or. Il crie motherfucker même quand il dort. Tout le monde cherche la vérité. Ils font les mêmes tubes d'été.
l'amende de demain. La vie est belle, chic et pas cher.
Qui est pas cher, Arnaud.
La tempête.
Pas le moindre signal radio sur Onco jusqu'à présent.
Carré.
Rien encore, commandant. Liaison radio, on entend une voix ici.
Mathieu Vidard.
Humaine, on dirait. Poussez le son.
Sur France Inter.
Le Sahara vient des étoiles bleues, livre qui est sorti chez Fayard. Et c'est une grande exploration au cœur de notre cosmos. Jean-François Bécard, vous en êtes l'auteur. Vous êtes astrophysicien, spécialiste de missions spatiales, conférencier. Présentez-nous, s'il vous plaît, François Scombe, qui est avec nous également cet après-midi et que vous connaissez bien quand même. Et ça a été vraiment le hasard. Parce qu'on on a pensé à François Scombe lorsqu'on a reçu votre livre. Et on a découvert par hasard qu'en fait, elle avait un lien direct avec votre travail.
Oui, donc c'est incroyable. Là, c'est vraiment demandé si le hasard existe.
Ouais.
Donc Françoise, c'est d'abord je suis vraiment ému d'avoir à mes côtés. Effectivement, c'est un peu, je me sens un peu comme un fils accompagné par sa mère spirituelle.
Oh là là, mon Dieu, allongez-vous mon enfant. Enfin, vous écoutez. C'est votre ancienne directrice de thèse.
Oui, oui, on a. Alors, j'avais un très joli sujet qui était essayer de découvrir quelle forme pouvait avoir la matière noire, cette matière mystérieuse, indétectable pour l'instant, lorsqu'elle se concentre au niveau des galaxies. Donc, ces vastes îles d'étoiles. L'idée était d'essayer de savoir quelle forme ça pouvait avoir. Parce que la nature, on est loin de mettre une contrainte. C'est un vieux sujet, il a 80 ans. Rien que la forme, est-ce que c'était plutôt sphérique, plutôt aplati? Donc, c'était un très beau sujet. Et petites choses intéressantes.
Ouais, il l'a bien défendu, voilà. Sa thèse,
François Scombe. Très bien défendu. En fait, bon, la forme donnait aussi la nature, quoi. On voulait savoir si elle était de matière noire froide, chaude, ou bien baryonique un petit peu. Donc, la forme était aussi une façon de connaître la nature.
Ouais. Et vous avez même relu le livre de votre ancienne thésard.
Tout à fait, avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs.
Voilà. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'erreurs dans cet ouvrage?
Oh non,
pas
quelques petites, qu'on a corrigées.
Donc, tout va bien. Vous avez validé
le titre aussi. Je te remercie, Françoise. Initialement, c'était le Sahara vient d'une étoile bleue, ce qui était plus poétique, mais malheureusement, la réalité astrophysique fait qu'un grand nombre d'étoiles bleues ont synthétisé les éléments naturels qu'elles ont diffusés.
Voilà, François Scombe, qu'on est ravis de retrouver, astronome, spécialiste des galaxies, membre de l'Académie des sciences et professeur au Collège de France, avec vos cours qui vont reprendre en novembre prochain, autour des trous noirs, cette fois-ci, pour une série, donc à partir de l'automne. Jean-François Bécard, régulièrement, c'est vrai que des découvertes importantes sont réalisées, on s'en fait l'écho ici dans cette émission, dans le domaine de la cosmologie. Mm-hmm. Et vous rappelez dans votre livre à quel point, au fond, nos ancêtres avaient des intuitions absolument géniales, parce qu'au fond, ces découvertes aujourd'hui confirment totalement ce qu'ils avaient pressenti et perçu de l'univers.
Oui, tout à fait. Donc, la première chose à dire, c'est que les anciennes mythologies m'ont ému. C'est un peu la raison pour laquelle j'en parle peut-être beaucoup dans ce livre. Elles sont parfois très belles. Et effectivement, il y a ici ou là des fulgurances.
Oui. Hein, on peut et parler dans toutes les cultures. Hein, ça
absolument.
A été...
ça peut se raccorder. On pourrait peut-être penser que si le temps n'existe pas réellement, tel que l'avant certaines théories un peu modernes, alors on pourrait dire peut-être que ces fulgurances peuvent s'expliquer par le fait que finalement nos ancêtres ont une sorte de regard dans le même plan que le nôtre. Et donc, en tout cas, une façon en tout cas de parler des anciennes mythologies, c'est par exemple, à titre d'exemple, on peut parler de celle de la constellation de l'Aigle, qui est visible au-dessus de nos têtes en ce moment, puisque cette constellation trône au milieu du ciel, avec la constellation de la Lyre et celle du Cygne, on les raccorde à ce qu'on appelle le triangle de l'été. Et cette constellation de l'Aigle, son nom, proviendrait du fait que pour les anciens, cette constellation se lève le soir en synchronisation du coucher du soleil. Et donc, dans leur lever et coucher respectifs, elles se croisent. Et de fait, l'aigle est le seul animal capable de toiser le soleil de face.
Et c'est magnifique. À quoi on la reconnaît, Françoise Combes, justement, cette constellation?
La constellation de l'aigle, elle a une forme d'aigle, justement, avec des ailes et une tête. C'est en fait les gens qui décrivent les constellations ont une petite idée morphologique.
Mmh. Tout à fait. Ce sont des dessins d'étoiles, hein, les constellations Ronplus. On peut imaginer le ciel comme une caverne tapissée de dessins préhistoriques d'étoiles.
Mmh. Et ces intuitions sont extraordinaires, effectivement.
Ah oui, c'est extraordinaire.
Quand on regarde dans toutes ces cultures et au fil du temps,
tout à fait,
il y a eu des coups de génie.
Hein. Oui, tout à fait. Mais je dois dire aussi que j'ai beaucoup apprécié le livre. Je pense que je découvre un autre Jean-François Beka. Lorsqu'il était étudiant, donc on était très scientifique. Et là, je pense qu'il a fait preuve de beaucoup de poésie dans son livre. Et c'est ça qui est son originalité.
Il y a un haïku, d'ailleurs, hein, du 18e dans votre
livre. Voilà,
dit ceci, ne pleurez pas, insectes, les étoiles... Elles aussi sont transitoires.
Avec quoi écrire de beaucoup plus beau. Effectivement, alors ça c'est un haïku de Kobayashi Issa, c'est fin époque Edo au Japon. Les haïkus sont des petits poèmes très brefs, qui souvent présentent des fulgurances, hein, comme ce dont on parlait, le petit et le grand, l'éphémère et l'éternité. C'est donc adéquat à parler d'espace-temps.
C'est ça. Et les étoiles transitoires, alors c'est ça. C'est sur la finitude aussi, hein, au fond.
Tout est transitoire.
De ces soleils,
si on peut même dépasser, les étoiles ont un temps de vie, l'espace-temps lui-même a un temps de vie, il se dilate infiniment, je pense qu'on en parlera. Ouais. Donc effectivement, nous sommes dans le transitoire permanent, donc il faut en tirer les conséquences et c'est réfléchir.
Ouais. Françoise Combes, justement, ces temps de vie des objets célestes, on les connaît tous bien, on est capable de les calculer vraiment.
Je pense que oui, en fait, pour les étoiles, donc justement, il y en a quand même qui sont très longues, hein, qui sont des milliards d'années, mais il y en a qui sont des supernovées, ça peut donner 10 ou 100 millions d'années, donc 1000 fois moins. Donc on connaît bien ça. Les étoiles, c'est quelque chose qui est relativement connu. Alors les galaxies, beaucoup moins. Oui. Les galaxies sont nées au début de l'univers. Il y en a qui sont toujours là, et d'autres qui peuvent disparaître.
C'est plus compliqué de calculer leur durée de vie?
Ah oui, parce qu'en fait, c'est moins bien défini. Les galaxies peuvent fusionner, en former une autre. Mm-hmm. Donc elles disparaissent. Donc elles en forment de nouvelles.
Oui.
Mais les étoiles, c'est bien paramétré, oui.
Le Soleil vient donc des étoiles bleues. On en parlait tout à l'heure avec vous, Jean-François Bécard, dans la présentation de l'émission.
Le sable.
Le sable, pardon. Le sable, oui, absolument. Et ça nous fait penser aussi à Hubert Reeves, à ces poussières d'étoiles dont il parlait.
Oui, c'est vrai que le sable, c'est le titre était, c'est un angle poétique, mais l'ensemble des éléments naturels après le carbone est fabriqué dans les étoiles. En réalité, il n'y a pas un atome de carbone dans l'ensemble du cosmos qui n'a pas été fabriqué par une étoile un jour. On pourrait dire donc pas seulement le sable, l'ensemble des éléments naturels, dans des temps parfois très 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 très, très spectaculaires. Hein. Le fer de nos objets quotidiens s'origine de quelques heures à secondes dans les toutes dernières heures de vie d'une étoile, ce qui anoblit un objet de fer tout objet de fer provient des supernovas. Nous-mêmes, on pourrait dire que nous sommes en partie des enfants de ces supernovas.
Et ces supernovas, qu'est-ce qui les caractérise alors exactement, Françoise Combes? Ce sont des étoiles particulières.
Des étoiles très massives. Alors il y a plusieurs supernovas, mais les supernovas auxquelles on pense d'abord, par exemple celle du crabe dont les Chinois ont regardé l'explosion. Mm-hmm. En fait, ce sont des étoiles très très massives, beaucoup plus massives que le Soleil. Et donc, à la fin de leur vie, elles ne trouvent plus d'équilibre gravitationnel. Donc, leur cœur s'effondre, leur enveloppe... Et finalement, il y a un rebond de l'ensemble du cœur qui finalement fait une explosion totale.
Notre Soleil, ça n'est pas une étoile massive.
Non, et on a de la chance, comme ça fait au moins 4 milliards d'années encore. Hein. on est à peu près à la moitié de sa vie, donc il y a 4 milliards d'années dans le passé, 4 milliards d'années dans le futur.
Ouais. Combien d'étoiles est-ce qu'on peut voir à l'œil nu? Justement, vous parliez tout à l'heure de cette constellation. En ce moment, quand le ciel est coopérant, on a des belles choses à voir.
Environ 2000. Oui, dans des très bonnes conditions, 2000 visibles dans chaque voûte, de chaque côté. La voûte boréale et la voûte australe, à peu près de manière équivalente, 2000.
Et vous décrivez vraiment cette machinerie extraordinaire au cœur des étoiles, avec ces noyaux atomiques. Alors là, on peut vraiment aller à l'intérieur de la mécanique, mais c'est quelque chose de génial.
Ouais, c'est assez miraculeux, une étoile. Une étoile, donc, c'est un corps très massif, c'est millions de fois la masse d'une planète, de l'hydrogène, donc le plus simple de l'univers. Et en réalité, une étoile, on pourrait dire, c'est un funambule qui marche sur une corde tendue entre la gravité et la dilatation des gaz chauds. C'est-à-dire qu'une étoile, par sa masse, devrait se recroqueviller sur elle-même en permanence. En se recroquevillant, heureusement, sa densité fait que des réactions de fusion nucléaire commencent, c'est-à-dire que noyaux commencent à se coller les uns aux autres. Accessoirement, ça forme un nouvel élément naturel. Et en même temps, elle émet des photons, de la lumière. C'est-à-dire qu'on a affaire à un mécanisme double. Une étoile est une usine à produire de la matière et en même temps, c'est un luminaire.
Oui, donc ça fabrique tous ces éléments chimiques, effectivement, qui existent dans la nature. Et est-ce que la masse de l'étoile, justement, Françoise Combes, favorise l'apparition de certains éléments chimiques?
Oui, c'est vrai.
C'est vraiment un lien direct, hein.
Certaines étoiles plus massives peuvent former des éléments plus lourds. Alors que dans les étoiles peu massives, le carbone, l'azote et l'oxygène sont formés aussi bien dans les massives ou dans les peu massives, comme le Soleil.
Absolument. Et en réalité, ce qui se passe donc dans une étoile, l'élément critique, c'est le fer. Il a un rôle très particulier dans une étoile, puisque une étoile, en gros, augmente dans son cœur sa température régulièrement, en gros, pour tenir son équilibre par rapport à l'effondrement gravitationnel permanent. Le fer grippe l'étoile, grippe le mécanisme de fusion, parce que on arrive au premier élément, le 26e sur la table, qui subitement est hyper stable. C'est que la cohésion de l'atome de fer est énorme. C'est-à-dire que ça consomme de l'énergie au lieu d'en produire. Donc l'étoile est dans une situation catastrophique. Subitement, elle a besoin d'énergie pour tenir la gravité. Il n'a plus subitement, donc en une fraction de seconde, hein, c'est vraiment de l'ordre de quelques centaines de millisecondes, l'essai de son enveloppe va effectivement, comme dit Françoise, s'effondrer, rebondir, des ondes de choc vont parcourir l'étoile qui va exploser. C'est ça la supernova. Donc, et ce qui est notable, c'est que le fer qui est au cœur, qui est le dernier élément produit au tout dernier moment, va être entièrement dissocié. Ça va devenir une étoile à neutrons. Donc, ce n'est pas ce fer-là qu'on manipule aujourd'hui. C'est un peu, les gens ne savent pas, mais le fer de la vie quotidienne, nos fourchettes, nos couteaux, provient pas du fer d'abord produit par une étoile, mais ensuite, quand elle est une supernova, le silicium qui est là se retransforme une seconde fois en fer. C'est celui-là qu'on manipule aujourd'hui. Il y a des choses fascinantes, hein, sur le mécanisme.
C'est ça. Est-ce que notre Soleil, notre étoile, fabrique du fer ou pas?
Non. Elle n'a pas la masse suffisante. D'ailleurs, c'est ça, hein. Elle s'arrêtera péniblement au carbone, à supposer qu'elle est on va dire, par principe de précaution, essentiellement, elle s'arrêtait à l'hélium, peut-être un petit peu de carbone.
Donc, petite productrice d'éléments chimiques, notre étoile.
Un petit peu quand même carbone, CNO, quand même, le carbone, l'azote et l'oxygène, en forme.
Une question de Jean-Paul. Est-ce que la gravité joue un rôle déterminant en maintenant les amas de galaxies et les galaxies à ensemble?
Tout à fait. C'est exactement la gravité qui maintient toutes les structures ensemble. Donc, on sait le reproduire dans les ordinateurs, faire des simulations numériques, et on comprend très bien donc comment, à partir du Big Bang, qui est assez homogène, on reforme les structures par la gravité, donc des filaments cosmiques, une espèce de réseau, de toile d'araignée, et à la fin, à la croisée des filaments, se forment les galaxies, les amas de galaxies. Donc c'est uniquement la gravité qui va réunir l'hydrogène et former plus ou moins des étoiles, etc. Et puis surtout la matière noire, hein, quand même. Oui. On ne peut pas le passer sous silence.
On va en parler largement avec vous dans un instant. Planète, étoile, galaxie, cosmos, dans la tête au carré.
Now I see, sits in the back of the grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, woke out the door with a see everyone dressed in black, the glasses seem too far to fit. She said, look at you, the game is over. Your cup is full, your cup is full. Stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying. Dubious, stop while you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calm. Searching for London, London, London is all in you. Are you denying the truth? I might be far in you, he said. Although it's not clear as the morning dew. Though my preferred ways are not happening, I won't underestimate who I am capable of becoming. Mm-hmm.
History will be made today is written boldly on his face. So clear you could hardly miss it. You could hardly miss it. For transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes like fishes caught in ponds, then thrown back for fun. She said, look at you, look at you. Just pick a fleet. Your cup is full, your cup is full. What have you not yet achieved? It is obvious that you're trying. Dubious, stop or you die. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all in you. Why are you denying the truth? I might be boring you, he said. Although it's not clear as the morning dew. Though my preferred ways are not happening, I won't underestimate who I am capable of becoming.
Benjamin Clementine avec London.
Commandant, au sujet de ce programme sur les possibilités que peut prévoir le maître ordinateur...
Qu'est-ce que ça donne à votre avis?
En se fiant à notre trajectoire actuelle, nous devrions approcher d'au moins, disons, 10 millions de planètes. Ce qui, statistiquement, nous en promet environ 3600 d'un type semblable à celui de la Terre. Ce qui veut dire qu'on est en mesure d'espérer rencontrer une infinité de planètes habitables pour notre équipage.
Et à votre avis, combien d'années risquent de s'écouler avant que nous n'atteignions la première de ces planètes du type de la Terre?
Oh, pas tellement, professeur. Relativement parlant, ça va de soi.
Je ne crois pas que je sois spécialement impatient, Canon, mais je voudrais savoir combien nous prendra un tel voyage jusqu'à cette planète.
Seulement 2543 ans, 4 mois et 10 jours. Je sais que vous aimez l'exactitude.
Je vous en remercie.
Voilà, et on apprécie également cette exactitude extraite de Cosmos 1999 avec Jean-François Bécard et Françoise Combes. Nous explorons donc le cosmos, on pourrait dire notre cosmos au fond,
oui,
Françoise Combes, hein, parce qu'on parle bien de notre environnement. Comment vous parlez du salon au fond d'une grande habitation, hein, Jean-François Bécard.
Alors c'est effectivement, je me suis aperçu que c'était bien d'essayer de clarifier nos situations. Où sommes-nous?
Oui.
Parce que on pourrait croire qu'on est des petits poissons autour d'un rocher dans un océan qu'on ne connaît pas du tout. Donc l'idée, c'est d'avoir une image. Donc effectivement, on va dire qu'on habite dans une pièce, un salon qu'on n'a jamais quitté, dont on voit les murs. C'est ce qu'on appelle l'horizon cosmologique. Donc c'est là la lumière la plus vieille. Mmh. Ce qui est hors de ces murs existe vraisemblablement. C'est-à-dire qu'on sait que hors du cosmos, l'espace continue. On peut à peu près en être assuré de la même manière qu'un marin sur un bateau, regardant l'horizon, voit l'horizon à quelques kilomètres, n'a aucune raison de croire que la mer s'arrête à l'horizon, elle continue. Donc hors du cosmos, l'espace et le temps continuent, l'espace-temps continue, et on va dire que ça peut être une limite, peut-être pas. Il est possible que ce soit infini. Donc l'espace-temps contient ce cosmos, mais encore de multiples cosmos. On va appeler ça un étage d'un immeuble univers. Mm-hmm. Et la façon dont je le conçois, c'est qu'il existe possiblement d'autres espaces-temps qui n'ont rien à voir avec le nôtre, c'est-à-dire avec des lois physiques différentes, des constantes fondamentales différentes. On en parle par exemple dans des modèles où il y a des floraisons d'espace-temps, et donc on appelle ça la mousse de Linde par exemple. Et donc on peut voir ça, c'est un exemple parmi d'autres, de multivers, on peut les voir comme des étages inférieurs et supérieurs de cet espace-temps, et l'ensemble de tout cela formerait l'univers avec un grand U.
Oui, Françoise Combes.
Oui, c'est une définition, hein. On n'est pas forcément tous d'accord sur la définition de l'univers. Oui. Je préférerais avoir un univers qui contient notre espace avec la même géométrie, la même courbure, donc notre espace-temps. Et puis les multivers, c'est quelque chose qui finalement, on ne saura jamais s'ils existent vraiment.
qui serait vraiment en dehors de notre univers.
En dehors de notre univers, carrément. On peut imaginer toutes sortes d'univers, mais qui n'ont pas du tout les mêmes constantes, c'est-à-dire qui n'ont pas la même quantité de matière, quantité d'énergie noire, quantité de matière noire, etc.
Absolument.
Et pas du tout la même courbure, et pas du tout le même âge, le même Big Bang, etc.
Avec d'autres lois physiques aussi qui pourraient...
Alors, des lois qui pourraient un petit peu changer, parce qu'en effet, les gens font varier la constante de gravitation, la vitesse de la lumière,
etc. Ce qu'on appelle la brisure de symétrie, c'est comme une pièce de modèle lancée. Effectivement, dans ces multivers extérieurs, a priori, il n'y a pas de raison de croire qu'ils puissent être similaires. Ça, c'est un peu une infinie diversité des formes de la nature qui pose des questions philosophiques.
Oui, et puis qui sont difficiles à comprendre, à saisir avec notre petit cerveau.
C'est ça.
L'abstraction. Ça demande un effort d'abstraction. Oui.
Les planètes habitables, 2543 ans dans Cosmos 1999. Est-ce qu'on peut arriver à la toute première? Vous
mais
trouvez
encore,
ce chiffre
très vite,
positif.
2000 ans pour y arriver,
optimiste.
Il va très vite. C'est trop optimiste.
C'est ça.
Oui, en fait, parce que les planètes que l'on connaît actuellement, enfin, on en connaît des milliers déjà, avec les satellites Corot, Kepler, eh bien, ils sont dans le voisinage du Soleil, c'est-à-dire, ils sont à quelques années-lumière, des années-lumière. Et on sait que, par statistique, on peut extrapoler dans la Voie lactée. Dans la Voie lactée, il y a 200 milliards d'étoiles, donc il y a encore plus de planètes que d'étoiles. Donc
200 milliards.
Milliards d'étoiles.
Voilà.
Et donc de planètes encore plus, peut-être 400 milliards de planètes. Et bon, il faut bien dire que la galaxie est toute petite dans l'univers. On a énormément de galaxies. Dans notre cosmos, 200 milliards de galaxies aussi.
200 milliards de galaxies, voilà. Tout ça, c'est quand même très vertigineux.
D'un facteur 20 de galaxies naines. Ce sont 200 milliards de grandes galaxies.
Donc,
il y en a encore des petites.
Le nombre de planètes, habitable, il y en a certainement.
Mais quand même, nous ne sommes pas uniques dans ce vaste
unique.
Monde.
Nous ne sommes pas uniques. Le problème, c'est pour communiquer avec ces autres êtres.
C'est un petit peu loin.
Ça prendra des milliards d'années.
Voilà. 20e anniversaire en novembre prochain de la découverte de la première exoplanète.
Michel Mayor.
Ben oui, c'est quand même quelque chose d'important. Jean-Paul demande, est-ce que l'univers a un volume fini? Sait-on s'il est courbe ou plat? Et quelle serait son évolution probable?
Alors, il a, pour l'instant, ce que l'on sait, parce qu'évidemment, il peut en avoir d'autres découvertes, mais il est plat, complètement plat. On le sait par plusieurs expériences, comme le fond cosmologique que Planck a bien confirmé récemment. Et puis on sait que est-ce qu'il est vraisemblablement infini, mais on le saura jamais, puisque notre cosmos, s'il est infini, c'est bien au-delà de notre cosmos. Et puis on sait qu'il est en expansion accélérée. Ça, c'est la nouvelle découverte depuis l'an 2000.
C'est très récent.
Ça, c'est très récent.
Ouais.
Et au départ, on croyait que l'accélération, l'univers était décéléré plutôt, donc l'accélération négative. Et on pensait donc que de plus en plus de galaxies rentraient dans notre cosmos.
Ouais.
Maintenant, avec cette accélération qui va devenir exponentielle, on pense que toutes les galaxies s'enfuient de notre cosmos. Donc on verra de moins en moins de galaxies, hélas.
On tend vers un Sahara cosmique.
C'est ça, exactement.
Pour faire écho au titre du livre.
Ouais. Il y a des choses qu'on ne saura jamais. Voilà ce que vous venez de dire, Françoise Combes.
Ah oui.
Ça, c'est quand même dur pour un scientifique, non? De l'admettre.
Oui, c'est vrai. Mais enfin, bon, c'est tellement loin.
Ou alors c'est la sagesse du scientifique, que d'être capable de dire il y a des choses pour lesquelles on n'aura aucune réponse.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et puis en plus, bon, ce qui console, c'est qu'on découvre de plus en plus de choses à connaître.
C'est ça.
Donc on ne pourra pas dire qu'on est dans un désert de connaissances.
C'est ça. Et des choses pour lesquelles, en tout cas, on n'avait rien imaginé.
Ah oui. Ben, l'énergie noire, c'est quelque chose, un cinquième élément qu'on n'avait jamais imaginé. Donc, on pensait qu'il n'y avait que la gravité des objets qui tombaient sur nous. La gravité est attractive. Maintenant, il faut imaginer un cinquième élément qui est répulsif.
Non, l'énigme reste effectivement complète. Par exemple, en termes de la nature profonde du réel, de quoi est fait l'espace et le temps, en termes de on pense donc que ça peut être maintenant dû à des tout petits volumes, et il n'y a pas de notion d'infiniment petit, ça s'arrête. Il y a des tout petits volumes qui, en fait, définissent la notion d'espace. Il n'existerait pas un espace porteur de l'ensemble des choses, mais on aurait des volumes générés par un champ, et les interactions entre ces petits volumes créeraient le temps. Donc l'espace et le temps sont des illusions à notre échelle. Et donc cette notion profonde, je ne vais pas perdre, mais ça change totalement notre vision de voir. L'énigme reste complète et il y a des progrès constants dans notre façon de nous représenter le monde.
Oui, Géco nous dit ceci, est-ce que le temps n'est pas un point de vue anthropomorphique plus qu'une réalité comme une onde?
Justement, pour faire écho à ce que je viens de dire, dans des théories assez récentes comme des tentatives de de mélanger la relativité générale qui fonctionne véritablement très bien au niveau du cosmos à grande échelle, et puis la mécanique quantique qui fonctionne très bien au niveau des particules. Si on essaie de faire la synthèse de ces deux choses, comme des tentatives hein, qui sont
d'unification,
pas encore
avérées,
d'unification, comme par exemple soit la théorie des cordes, soit la gravité quantique à boucle, ces deux théories, il y en a d'autres. Elles sont citées dans le livre. Un peu étudié. Donc, dans ces deux choses-là, le temps, effectivement, n'est plus qu'un phénomène émergent. Ça n'est pas quelque chose qui définit les choses, c'est plus une interprétation de quelque chose de plus profond. Par exemple, l'ordre, l'entropie. Ou par exemple, la structure même de quelque chose qu'on ne peut plus l'appeler espace-temps, c'est dommage. On va appeler ça poche d'univers, puisqu'il n'y a plus d'espace et de temps, soyons logiques. Et donc, on est effectivement en plein mystère, mais on arrive un peu plus profond, en tout cas, dans notre perception du réel. Et ça, c'est merveilleux.
François Scombe.
Oui, ben, le temps, j'aimerais aussi, peut-être, comme tu es très poétique, très lyrique, revenir un peu sur Terre. C'est que le temps ne pourra pas jamais le rendre égal à une autre dimension spatiale. Enfin, le temps, il y a quand même... On n'aura jamais un retour vers le futur ou un retour vers le passé. Il y a quand même des conditions de causalité qui seront universelles, et ça on pourra jamais être né avant son grand-père par exemple, etc., des choses comme ça. Donc ça, je pense que le temps ne pourra jamais quand même disparaître.
Quel dommage, hein.
Complètement, il faut quand même garder un petit peu les pieds sur terre, je pense.
Bruno nous dit ceci: si la synthèse des atomes s'arrête au fer dans les supernovas, d'où proviennent les éléments de masse atomique plus élevés, comme l'uranium par exemple?
Précisément du fait que la supernova en explosant, en ne tenant plus sa structure, ces étoiles massives vont monter énormément en température. On parle plus de, ce n'est plus des millions de degrés, mais de l'ordre de 100 milliards de degrés, dans des conditions de début d'univers.
Puis il y a aussi l'explosion. En fait, lorsque l'explosion, il y a un moment de flux de neutrons. Il y a simplement un processus de capture de neutrons qui fait qu'on remonte tous les éléments plus lourds que le fer.
Mais ils proviennent quand même de ces supernovas?
Oui.
Oui. Dans des temps, c'est spectaculaire, des temps très courts. Hein. Mm-hmm. C'est plus du tout des millions d'années, c'est soit des fractions de secondes, soit quelques milliers d'années.
Non, non, n'en voyez personne. Et dites à vos hommes de faire une prière si je me perds. À mille de la froideur des villes, de ceux qui les peuplent, je file vers des horizons tranquilles. Dans le désert, dans le désert. Dans le désert, je coule une vie de miel entre le sable et le ciel. Quand le soleil de plomb fera place aux nuages, trouvera-t-on mon corps au pied d'un mirage? C'est quand le soir vient, c'est la pluie qu'on espère. Qui n'a soif de rien ne vaut pas plus que poussière. Dans le désert,
dans le désert,
dans le désert,
dans le désert,
j'ai couru sur les dunes, dormi sous la lune. Dans le désert,
dans le désert,
dans le désert,
dans le désert,
je coule une vie de miel entre le sable et le ciel.
Dans le désert.
Dans le désert, Lou Di Franco et le Sahara qui vient des étoiles bleues, c'est le livre autour duquel nous discutons cet après-midi dans la tête au carré.
Au dire d'Aristarque, le soleil est forcément situé au centre de l'univers. Et nous, la Terre, nous décrivons un cercle autour de lui. Nous sommes donc, et c'est la clé de tout, toujours à exactement la même distance. Si, comme tu le dis, nous acceptons l'idée que cette distance est variable, nous devons ajouter un épicycle à l'orbite terrestre pour qu'elle soit parfois plus proche et parfois plus éloignée du Soleil. Mais nous tombons alors dans le même piège que Ptolémée.
Des cercles par-dessus d'autres cercles.
Exactement. Et voilà, je ne sais comment résoudre ce conflit. Enfin, la seule solution que je vois, c'est de déplacer le Soleil du centre et, ma foi, l'idée de ne pas avoir de centre, malgré moi, elle me brise le cœur. Alors, d'après toi, que dois-je faire ?
Allez vous coucher.
Voilà, Agora, extrait de ce film. Françoise Combes, Jean-François Bécard, nos invités pour parler du cosmos. Y a-t-il un centre au cosmos, Françoise Combes ?
Mais c'est vrai, dans le sens où on l'a défini tout à l'heure, l'horizon. C'est-à-dire que nous sommes au centre de notre horizon visible.
La Terre est au centre du cosmos ?
Notre horizon observable,
lorsque
attention.
Nous en sommes, les
mais il n'y a aucun centre. Il n'y a aucun centre, l'univers est infini, tous les observateurs se valent. Mais chaque observateur sera au centre de son horizon.
Ouais. Émeline nous dit ceci, je voudrais savoir pourquoi nous ne voyons pas le centre de notre galaxie, pourquoi la nuit nous ne voyons que le bord ?
Et à cause de notre position sur la Terre, à cause de notre latitude, effectivement, si pour ceux qui ont la chance d'aller en voyage un peu plus bas, vers l'équateur, si bien sûr le centre de notre galaxie est parfaitement visible, c'est même quelque chose de magique à voir que je conseille absolument. Effectivement, la couverture du livre, par exemple, est prise depuis la Namibie, au-dessus de l'Afrique du Sud.
On y voit comme un grand nuage constellé d'étoiles.
Voilà, donc déjà la première chose à dire, c'est que cette Voie lactée, bien sûr, beaucoup de gens se demandent si les étoiles du ciel appartiennent à la Voie lactée. C'est une question à laquelle la réponse est bien sûr oui. Mmh. Le fait qu'on voit une galaxie distante, une voie lactée comme ça, comme un arche de lumière avec un centre, un bulbe au centre, fait qu'on a un peu l'impression un peu de ne pas y appartenir. Oui. Et pourtant, si nous sommes dans le disque, nous sommes au milieu du disque et donc nous y appartenons à cette voie lactée, nous et les 2000 étoiles visibles à l'œil nu dans le ciel.
Oui. Pour répondre à la question, voit-on le centre vraiment de la voie lactée ? En fait, on ne le voit pas en visible. Il faut aller en infrarouge parce qu'il y a de la poussière qui est dans les bras spiraux de la voie lactée qui obscurcit le centre. Et pour voir le vrai centre, il faut vraiment aller en infrarouge.
Si par centre, on entend effectivement la zone dans le Sagittaire, la constellation Sagittaire, effectivement. Oui. Sinon, par centre, on entend le bulbe, c'est-à-dire l'espèce de la sphère centrale qui... De notre galaxie spirale, si elle est visible.
On peut donner une taille à notre cosmos aussi, Françoise Combes.
On voit bien que la lumière a mis 13,8 milliards d'années à venir du Big Bang, mais entre-temps, l'univers est rentré en expansion, donc il s'est expansé d'un facteur 3 à peu près, 45 milliards d'années-lumière aujourd'hui. Oui. Mais évidemment, le temps de parcours, c'est différent de la taille actuelle aujourd'hui.
Oui. C'est-à-dire que on imagine un ballon, une fourmi ou une coccinelle qui marche sur ce ballon, et en même temps, on gonfle le ballon. Donc, en même temps, cette coccinelle, en fait, avance beaucoup plus vite qu'elle a l'impression d'avancer par rapport au ballon.
François, comme vous disiez tout à l'heure, c'est compliqué d'établir l'âge d'une galaxie parce qu'effectivement, les galaxies sont gourmandes et se cannibalisent entre elles. Hein. Ça, c'est
un
processus normal.
C'est un processus un peu hiérarchique, comme on appelle, c'est-à-dire les petites galaxies qui se forment au début de l'univers, peu à peu, c'est comme aussi une petite rivière, des petits affluents qui deviennent une grosse rivière. Et donc, notre Voie lactée a sans doute avalé beaucoup de compagnons avant de devenir ce qu'elle est.
C'est ça. Et c'est un processus qui continue toujours.
Ah, s'il continue, on le voit, des fusions de galaxies. On a par exemple ce qu'on appelle les antennes. On a des bras de marée et puis deux centres de galaxies qui se rapprochent. Oui. Et puis certaines qui sont déjà fusionnées et on voit juste les bras de marée qui ressortent.
Ça crée des chocs justement, de galaxies qui rentrent en collision
l'une
avec l'autre.
Dans le gaz, mais pas dans les étoiles. Parce que les étoiles sont tellement loin les unes des autres qu'elles ne se rencontrent jamais. Donc les galaxies d'étoiles se traversent sans se voir.
D'accord.
Par contre, le gaz, le gaz rentre en choc.
Une grande fusion est prévue. Dans quelques 3,5 milliards d'années, la galaxie d'Andromède
la plus proche de nous,
la plus proche de la nôtre, comme à 2,5 millions d'années-lumière, se dirige droit vers nous. La collision est inéluctable et elle se mélangera pour traquer une nouvelle galaxie à l'aube d'environ 3, 4, 5 milliards d'années.
Alors Jean-François Bécard, vous donnez l'adresse cosmologique justement de la Terre, mais ça c'est amusant parce que ça permet un peu de se représenter tout ça comme une poupée gigogne en partant de la Terre jusqu'au grand mur de galaxie, c'est ça ?
Voilà, donc clairement j'aime bien me situer, comme vous pouvez voir entre mes immeubles. Et donc là, où sommes-nous officiellement ? Donc nous habitons sur une planète qui tourne autour d'une petite étoile jaune. Cette étoile se situe dans un des bras, qu'on appelle le bras d'Orion, dans notre galaxie, qui est la Voie lactée.
Ouais.
Cette galaxie elle-même fait partie d'une petite tribu, appelons un chapelet d'îles, petite tribu qu'on appelle le groupe local, qui lui-même fait partie d'un groupe un peu plus gros qui s'appelle un amas, l'amas de la Vierge, qui lui-même fait partie d'un super amas de la Vierge. Ensuite, ça s'arrête. Il n'y a pas de super amas. Par contre, ce qu'on peut voir, et c'est un peu l'échelle de la gravité. À partir de là, à partir des super amas, la gravité cesse d'être dominante. Après commence l'énergie noire. Et les super amas, par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils font des traînées. Ils se suivent, ça tire plus, mais il y a des traînées de gaz entre eux. Et ça forme ce qu'on appelle des filaments. Et parfois aussi ce qu'on appelle, quand ils sont un peu plats de manière visible, qu'on appelle des grands murs de galaxies. Typiquement, un des grands murs les plus proches, découvert en 1989, s'appelle le grand mur de galaxies.
Oui.
Ceci environ 200 millions d'années-lumière. Il est composé d'environ une trentaine de milliers de galaxies.
Oui, il y a des découvertes monstrueuses quand même, si François Scombe, de grands murs. Et très récemment, en 2013, je crois qu'on a découvert le plus grand mur pour l'instant de galaxies.
Oui, parce qu'actuellement, la science fait beaucoup de progrès. On fait des grands relevés de tout le ciel. On a découvert des millions et des milliards de galaxies, alors qu'autrefois, on n'avait que quelques milliers de galaxies connues. Donc là, on a permis de faire toute la cartographie de tout ce qui nous entoure. Je crois que ça ira en croissant, on verra de plus en plus avec les grands télescopes. Et donc, on voit ces structures qui sont en effet très filamentaires. Donc ces murs, c'est plutôt des filaments.
Oui, avec ce mur de près de 10 milliards d'années-lumière situé
notre planète. Donc effectivement, c'est un mur lointain, mais particulièrement spectaculaire par sa taille. On parle d'une taille caractéristique d'environ 9 milliards d'années-lumière. C'est tout de même, c'est presque un quart de la taille du rayon du cosmos. Donc c'est un très grand filament. Et effectivement, la question se pose de savoir comment il a pu vraiment naître, surtout par rapport à cette lumière fossile très très régulière.
On termine rapidement, François Scombe, avec la matière noire et son rôle autour des galaxies. C'est un rôle d'attraction là aussi.
Oui, en fait, s'il n'y avait pas de matière noire, on ne formerait pas les galaxies. Ouais. Parce que les galaxies, toutes seules, mettent beaucoup de temps à s'effondrer les unes sur les autres, à cause de l'expansion qui empêche l'effondrement. Donc en fait, les galaxies se forment d'abord de matière noire. Et ensuite, le gaz hydrogène tombe dans ces galaxies de matière noire pour former les étoiles. Donc on forme les galaxies avant les étoiles. Et s'il n'y avait pas de matière noire, on ne formerait pas de galaxies.
Voilà, ce sont les berceaux au fond de ces étoiles.
C'est les berceaux des étoiles.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Ravi de vous avoir réunis. Je crois que c'est la première fois que vous êtes ensemble derrière un micro.
Radio 8,
le Sahara vient des étoiles bleues. C'est Merveilles du cosmos chez Fayard, Jean-François Bécard. Et puis François Scombe, on pourra vous retrouver à partir du mois de novembre pour vos enseignements au Collège de France. On le disait tout à l'heure. Autour des trous noirs.
Sur les trous noirs.
Et pour ceux qui ne pourront pas être à Paris, il y a le site internet du Collège de France, comme d'habitude, pour suivre les cours. Merci beaucoup, en tout cas.
Merci.
À tous les deux. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour.
Affaires sensibles. Dans quelques minutes, après les infos.
Aujourd'hui, retour sur la libération des otages du voilier français Le Ponant, au large des côtes somaliennes. C'était au début du mois d'avril 2008 et nous recevrons l'amiral Laurent Mérère, auteur du livre intitulé « À l'assaut des pirates du Ponant ».
À tout à l'heure.